Merci, monsieur le sénateur. Je vous invite à prendre le micro pour peut-être répondre à des questions de la salle. On va commencer par Gilles Moulec, au premier rang. Voilà.
Oui, merci. Sénateur Amiel, merci d'être parmi nous. Et d'ailleurs, je voulais commencer par souligner que votre intérêt pour la psychiatrie et la santé mentale n'est pas seulement l'intérêt un peu distancié du sénateur, mais c'est aussi très concrètement et sur le terrain l'intérêt du maire que vous avez été jusqu'il y a peu de temps et qui a toujours, je voulais le souligner, œuvré très activement pour faire avancer les projets de psychiatrie et de santé mentale et justement dans le sens de la déstigmatisation. Donc,
quel était le nom de votre commune ?
Les Pennes-Mirabeau.
J'étais maire aux Pennes-Mirabeau, une commune au nord de Marseille.
Voilà, donc je voulais le souligner. Alors, ma question s'adresse aussi aux médecins généralistes que vous êtes peut-être toujours un petit peu, non ? Vous avez complètement arrêté ?
Non, j'ai arrêté depuis trois ans, très exactement.
Jusqu'il y a très peu de temps. Comment est-ce que vous verriez, justement, concrètement, le soutien aux médecins généralistes pour, notamment, ce repérage précoce, sachant d'ailleurs que la question déborde la psychiatrie, la pédopsychiatrie, mais c'est en général au titre de la psychiatrie globalement. Comment voyez ce soutien ? C'est au niveau de la formation initiale, la formation continue, c'est des consultations partagées, c'est des personnes ressources, des numéros de téléphone. Enfin, vous voyez ça comment concrètement sur le terrain ? De quoi ils ont besoin, ces médecins généralistes ?
D'abord, d'une meilleure formation initiale en la matière. Elle est faible. Elle est faible, elle est, à mon avis, nettement insuffisante. Deuxièmement, la possibilité de se référer en cas de besoin à un référent, justement, qui peut être psychiatre, pédopsychiatre en l'occurrence. On avait proposé une espèce de plateforme téléphonique, même si on conçoit à quel point cela peut paraître insuffisant pour une spécialité comme celle-là, mais qui pourrait donner quand même quelques pistes. Le généraliste se sent souvent très très seul devant le fait psychique, et c'est peut-être le moment où on laisse passer un certain nombre de choses. Alors, je ne l'ai pas développé, mais c'est vrai que dans la stratégie nationale de santé, il y a aussi un chapitre important qui est celui de la télémédecine. Alors, je ne dis pas que la télémédecine va tout résoudre, parce que ce n'est pas vrai. Mais mine de rien, quand on voit les progrès que cela apporte aux familles, aux praticiens, si elle est bien utilisée, bien encadrée, c'est un véritable chantier à ouvrir, je pense que la télémédecine pourra être un apport considérable à une meilleure prise en charge, une meilleure relation, la téléconsultation bien sûr, mais aussi la télé-expertise, c'est le deuxième volet, entre généralistes et spécialistes. Sans tout résoudre, hein, attention, ne me faites pas dire, voilà.
Combien y aura-t-il de questions à peu près qu'on voit Bon, pour l'instant, ça se concentre sur les rangs avant. Allez-y, monsieur. Après, on ira à madame, puis monsieur.
Une brève question qui s'adresse moins au sénateur et moins au maire de la Plaine-sur-Yvonne qu'à l'ancien...
Non, pas la Plaine-sur-Yvonne, les Plaine-Mirabeau, je suis très...
Mille pardons. Non, il ne faut pas mélanger les serviettes, tu as raison. Non, je voulais savoir, il y a un des décloisonnements dans lequel tu as lutté, c'est celui entre la pédopsychiatrie et sa cousine, voire sa sœur, la PMI. Est-ce que tu saurais nous dire quelle piste concrète tu verrais pour favoriser ce décloisonnement et pour faire que la PMI, la pédopsychiatrie, qui ont des malheurs un peu communs en matière de démographie, on l'a souligné, puissent à nouveau travailler pleinement ensemble ?
C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, j'ai été en responsabilité pendant plus de 15 ans au niveau de la protection maternelle infantile du département. On a un vrai choc démographique, là encore. C'est-à-dire que les confrères... On avait un homme et les autres étaient des femmes. C'est la loi du genre. La pyramide des âges fait qu'elles vont toutes partir à la retraite et que certaines spécialités médicales, on le voit au niveau de l'examen national classant, ne sont pas prises. Les médecins, que ce soit la médecine scolaire, la médecine du travail, c'est pas le sujet, mais enfin, c'est aussi un sujet. La psychiatrie et ensuite, alors, c'est une spécialité finalement, la PMI, parce que lorsqu'on s'engage... là-dedans, on peut être gynéco, on peut être pédiatre, on peut être généraliste, mais il faut aussi, j'allais peut-être presque dire, et surtout, avoir une vision de santé publique. Je me rappelle avoir présidé il y a quelques années un jury de justement au niveau du centre de gestion de médecins territoriaux, mais on voyait vraiment que les médecins qui venaient là venaient souvent par défaut, excuse de le dire, pour des questions horaires de confort de travail et n'avaient que très très peu de notions de santé publique et encore bien moins de savoir ce qu'était une institution comme le Conseil général et le rôle qu'il pouvait jouer dans ce domaine-là. Une fois de plus, ça passe par l'information. Je crois énormément à l'information, à la communication dans ce domaine. Personnellement, si on va encore un peu plus loin dans l'approche de la démographie, ça ferait peut-être un bon compromis entre mesures incitatives et mesures coercitives. Remplacer l'examen national classant par un examen régional, ce qui permettrait peut-être un mode d'exercice de ceux qui sortiraient de cet examen régional au sein de cette région. Voilà.
Madame.
Oui, Claude Finkelstein, la représentante des usagers. Merci pour ce beau travail que vous avez fait. Mais je voulais vous poser une question. Que pensez-vous d'éventuelles installations de maisons médicales? Parce que quand ça marche bien, c'est important.
Voilà.
Et la deuxième, enfin, vous avez déjà plus ou moins répondu, de centres experts régionaux sur des sujets bien précis par télémédecine. Mais entre professionnels, j'entends, pas pour les personnes directement concernées.
Concernant les maisons médicales, bon, vous savez que c'est une des grandes idées qui a été retenue par le gouvernement actuel et que Mme Buzyn veut développer. Il faut être clair, ce n'est pas la panacée universelle non plus. Et il ne s'agit pas de créer des coquilles vides, de construire des murs, de l'immobilier, et puis ne pas avoir les médecins qui vont venir travailler. C'est quand même le risque. Si, par contre, on part d'idées, d'aide, et ça, il faut voir ça avec les ARS, de partir de la base. Enfin, moi, j'ai créé une maison médicale il y a 30 ans, sans aucun centime de public. Mais si on part de la base, de professionnels de santé qui se rassemblent, des généralistes, des spécialistes, des professions paramédicales, ça peut et ça doit marcher. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Donc il ne faut pas être clivant. Il y a les maisons médicales, il y a les centres de santé, peu importe les mots, mais il faut partir du terrain. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est concernant...
Sur les centres experts.
Oui, alors, ce que disait aussi Mme Moreau sur un institut national... J'ai toujours envie de dire, attention de ne pas créer des machins. Je vous avoue que l'Institut national, j'y suis très favorable. Mais je ne fais pas partie de l'exécutif, comme je le dis toujours, mais j'y suis très favorable parce que pour un sujet aussi complexe qui rassemble finalement autant de professionnels et bien évidemment des usagers, ça permettrait, me semble-t-il, en partant du haut, d'avoir une déclinaison régionale. Moi, je suis sur cette optique. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Oui, un institut national, vous dites, on est arrivé trop tôt ou peut-être trop tard. Enfin, ça dépend. On verra, on va voir. Mais je pense que c'est une idée qui peut faire son chemin, surtout si ensuite on peut la décliner au niveau régional. Voilà, c'est plutôt ma vision des choses.
Pascal Mariotti.
Donc, je suis présidente de l'ADESM. Cette année, c'est donc Gilles que vous connaissez beaucoup.
Est-ce que vous pouvez parler plus fort?
Ah oui, il faut vraiment manger le micro. Ça. Voilà. Et donc c'est Gilles qui, cette année, était le faiseur de ses journées et on l'en félicite encore. Une remarque, une question qui se dédouble. Je crois que tous autant qu'on est aujourd'hui, et sans flagornerie, on s'est félicité de l'initiative sénatoriale, et je l'ai dit dans mon court propos introductif, puisque la pédopsychiatrie... Non, plus personne n'en parlait, ou tout au moins on n'entendait plus. Juste formuler le vœu qu'aux différents niveaux nationaux, régionaux, territoriaux et locaux, on soit dans un feu continu et pas dans un feu de paille, parce qu'on a bien vu qu'au vent la mission, et vous avez noté les multiples contributions, a amené l'ensemble des champs de la pédopsychiatrie et sans doute au-delà à écrire, à contribuer. C'est la preuve de la richesse et de la capacité d'initiative, sans doute, de la plupart des acteurs, même si, comme vous l'avez souligné, ils sont cloisonnés. Force est de constater que les sujets sont souvent des feux de paille et qu'ensuite on passe à autre chose, parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement est à tous les niveaux et souvent celui-ci. Alors, à ce propos, comme on est beaucoup d'acteurs territoriaux et locaux, et qu'après tout, vous êtes vous-même élu local et représentant des élus locaux à travers le Sénat, je voulais vous interroger sur deux points, en termes à la fois d'expérience et de mode opératoire, de façon de voir les choses. Le constat qu'on peut faire sur les territoires où on s'y est intéressé, c'est que sur les communes ou les intercommunalités, donc les bassins de vie de proximité, qui pour nous font nos secteurs et qui sont les lieux de rencontre privilégiés avec les élus de proximité et avec la médecine générale, on voit que les communes ou les intercommunalités, via les analyses de besoins sociaux, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce sont des procédures et des documents obligatoires, s'affrontent souvent au public dont on parle aujourd'hui, et quand elles admettent qu'il faut rentrer dans le champ de la santé sans en avoir trop peur, le sujet remonte comme une des priorités, en particulier l'adolescence, hein, concernant les publics, et que ces sujets, on les retrouve dans les CLSM, les conseils locaux de santé mentale, dont on voit bien qu'ils commencent d'essaimer. Ce sera la première partie de la question, je vais la préciser. Ensuite, côté département, nous avons donc à participer, et nombreux, aux projets territoriaux de santé mentale, si on considère cette échelle-là, qui n'exclut pas les autres, évidemment, une territorialité plus large, où l'on rencontre le département sous deux casquettes, l'institution départementale. À la fois, elle est opératrice à travers ses services sociaux, ses services de protection maternelle infantile, protection de l'enfance, puisqu'elle fait partie des offreurs. Par ailleurs, elle est à la fois financeur à travers son offre, mais aussi déterminant, vecteur d'un certain nombre de politiques. Or, dans les champs que j'ai cités, nous devons constater, vous l'avez vous-même souligné, que nous sommes extrêmement cloisonnés, que la plupart du temps, nous ne sommes pas associés, le champ de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, même de loin, à la conception de ces politiques départementales, qu'on a là un domaine de très grande césure, et qu'ensuite, les interactions et les interrogations portent plutôt sur les services sociaux et plus rarement sur les autres dispositifs. D'où ma question à cette double échelle de la commune ou de l'intercommunalité et du département, sous votre double expérience ou champ de responsabilité, et à travers le filigrane du rapport, comment verriez-vous les choses? Quelle est votre perception?
Difficile de répondre en quelques mots. Alors, peut-être partir d'un exemple qui a été abordé, j'étais à la conférence de l'Association des départements de France à Marseille, justement, il y a quelques semaines, un sujet qui revient sur le tapis et qui est ô combien difficile et douloureux, c'est celui des... alors, on disait mineurs étrangers isolés, maintenant on dit mineurs non accompagnés. À travers un sujet comme celui-là, on est peut-être au cœur de la question de la difficulté à décloisonner les choses. Au-delà de l'aspect économique et du coût. Ces jeunes qui arrivent sur notre territoire se retrouvent souvent en situation de grande précarité à tout point de vue. Précarité sociale, précarité sanitaire. Moi, c'est un sujet qui m'est cher. J'avais été un petit peu secoué en disant ça, mais je le pense. Je pense que la pauvreté fait le lit des troubles du comportement, à défaut de maladies psychiatriques avérées. Mais on ne va pas tomber dans ce genre de choses. Oh ben, je n'ai pas inventé de la poudre, me semble-t-il, en disant ça. Bon. À l'inverse, être touché par une maladie mentale ou même par des troubles du comportement, j'ai présidé pendant plusieurs années un ITEP, un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Bon, on voit très bien que ces enfants, ces adolescents qui ont des troubles du comportement, et à plus forte raison une maladie psychiatrique avérée, vont se retrouver dans des difficultés sociales par rapport à l'emploi, par rapport à un certain nombre de choses. Alors, par rapport à la question que vous posez, il y a d'abord une difficulté institutionnelle. Là, c'est plus un cloisonnement, c'est un millefeuille. Alors, les Bouches-du-Rhône, en plus, sont un excellent exemple, celui que je connais le mieux et pour cause. On a eu un débat qui a duré plusieurs années, qui a débouché sur deux grandes lois institutionnelles, la loi MAPTAM et la loi NOTRe, sur la constitution d'une métropole. D'abord et avant tout pour deux catégories de sujets qui d'ailleurs se complètent, les transports et l'économie. Bon, il en demeure pas moins que, contre la volonté des politiques, c'est très difficile de faire avancer les choses. Et les maires, les 119, enfin, peut-être pas les 119, mais pas loin de 100 maires du département des Bouches-du-Rhône, étaient complètement opposés. Parce qu'ils n'ont pas été concertés, parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les méprisait. Enfin bref, parfois des questions qui ne relèvent pas uniquement de la pure gestion. Mais il est certain que si on arrive à mettre en musique les différentes institutions qui existent, pour revenir précisément au sujet qui nous importe, et le rôle qu'elles ont à accomplir, premier point, et deuxième, là c'est l'horizontal, et en décloisonnant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, bon, j'ai cité le social, le médico-social et le sanitaire, parce qu'on le fait par habitude, mais aussi bien d'autres intervenants, les choses pourraient s'améliorer. Pour cela, il en faut quand même, il en va de la volonté des acteurs de se parler. Ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus simple. Je me rappelle aux nombreuses réunions, pour reprendre l'exemple que j'ai abordé sur les mineurs étrangers isolés, avec l'État, parce que là, l'État a un rôle essentiel, puisque la politique d'immigration, c'est une compétence régalienne, un rôle important à jouer, mais avec le département, parfois, on avait l'impression qu'on ne se parlait pas. Et je pense que dans les sujets qui nous importent, c'est par là que ça commence. C'est une volonté politique au sens noble du mot, je dirais.
Alors comment on fait pour sensibiliser les politiques, notamment ceux des collectivités, à la question de la pédopsychiatrie alors ?
Ah ben c'est compliqué. Moi, j'ai été sensibilisé, je dirais, par vocation première. Vous plongez dans cette salle un certain nombre d'élus locaux, que ce soit des maires ou des conseillers départementaux, comme on dit maintenant. Ils ne savent pas de quoi on leur parle. Moi, je me rappelle avoir eu 2-3 fois des coups de fil en urgence de collègues maires qui me disaient « Bon, écoute, Michel, on sait que tu as l'habitude, on est confronté à une situation pas possible, l'ado qui casse tout, ce genre de truc. » Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Ben, écoutez, j'ai beaucoup parlé de formation, il en va peut-être aussi de la formation des élus, pourquoi pas.
Donc, il faut le suggérer à l'Association des maires de France, alors.
Je crois qu'en ce moment, ils ont d'autres préoccupations.
Mais on peut imaginer. D'autres questions ? Je crois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main tout à l'heure. Bon.
C'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Dans nos établissements monodisciplinaires...
Est-ce que vous entendez ?
Non, mais j'ai toujours le même problème. Dans nos établissements monodisciplinaires et dans eux seuls, nos présidents et présidents de conseil de surveillance sont la plupart du temps des représentants du conseil départemental, quand ce n'est pas le président lui-même. Pour parler de l'expérience de mon établissement précédent, quelques-uns sont ici, la question s'est posée de façon assez spontanée, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, de savoir quelle serait l'évolution des missions des présidents de conseil de surveillance, puisque les lois successives ont dégagé une partie de ces missions vers d'autres, et en particulier vers le directeur, y compris le président de la SEB. Et là, dans l'échange et dans le débat, sans plus développer, on voit bien que, quitte à redonner de l'aura et de la mission au président, il aurait quelque chose à faire, et si je le dis, c'est parce qu'il en a eu l'idée lui-même, je ne citerai pas son nom, de se dire, mais c'est pas qu'une question de communication, il faut que je réunisse l'ensemble des élus, parce que les élus n'y comprennent rien, voire ils fuient à toutes jambes quand on leur parle de santé mentale. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser s'il s'agit et de former ou de sensibiliser, et de s'appuyer notamment sur les élus qui ils connaissent quelque chose parce qu'ils sont présents dans les établissements, sauf à vouloir qu'ils soient de plus en plus les présidents potiches d'institutions qui n'ont plus beaucoup de responsabilités au sein de nos établissements.
Alors, justement, complètement d'accord avec vous. Il y a eu deux grandes lois de santé ces dernières années, la loi HPST et la loi de santé de Marisol Touraine. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y avait de bonnes choses dans l'une et dans l'autre, puis des choses qui me semblent beaucoup moins bonnes. Je pense quand même qu'au niveau des établissements sanitaires, il faut remettre du médical. Il faut remettre du médical. On a parfois l'impression, excusez-moi, monsieur Moulec, mais que l'administration, les directeurs ont véritablement confisqué ce que les médecins avaient à dire dans ce domaine-là. Moi, vous savez, dans le Midi, à Marseille, on a la PHM qui souffre en ce moment, qui souffre terriblement, terriblement. Et on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il y a eu des erreurs successives. Les médecins, souvent, ne sont pas écoutés. Bon, il y a des questions de moyens. On ne va pas rentrer dans un débat financier, mais après tout, pourquoi pas ? on a un ONDAM, allez, on va faire des chiffres ronds, hein, on va faire des chiffres ronds, on a un ONDAM tendanciel, comme disent les financiers, à 4, on est à 2. Voilà, forcément, il y a un problème à un moment ou à un autre. Et si on ne veut pas, à un moment donné, accomplir un véritable projet de réorganisation structurelle des hôpitaux, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. L'hôpital public, ce n'est pas une entreprise. Je reprends la phrase qu'Agnès Buzyn a employée à plusieurs reprises et j'espère qu'elle saura se faire entendre. Ce n'est pas une entreprise. La T2A que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas continuer comme ça non plus avec des pléthores d'actes. Il faut trouver d'autres modes de rémunération dans les hôpitaux, mais pas seulement. Mais il est certain que la réorganisation qu'il doit y avoir, et vous faites allusion effectivement au président des conseils de surveillance, mais qui sont souvent là, est-ce qualité ? À la limite, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va présider une énorme structure et qui ne comprend absolument rien à ce dont on lui parle. Alors après, il y a ceux qui vont dire, bon, je vais faire un effort de comprendre et apporter un petit peu la dimension politique. Après tout, les politiques sont là pour ça, pour essayer de comprendre et ne pas être pieds et mains liés avec l'administration qui va leur dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Et puis il y a ceux qui ne feront que du suivisme. Et le problème que vous soulevez est un vrai problème que l'on connaît ici et là. Hein. Sans parler des hôpitaux. Alors, c'est pas forcément. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais les hôpitaux secondaires. Un maire à qui on ferme son hôpital, comme il dit, ben, il hurle. Pas forcément à bon escient, parce que l'hôpital qu'on va fermer, qui fait trois appendicites et deux vésicules biliaires par semaine, le maire, c'est pas là qu'il va aller se faire opérer de son cancer du côlon. Il faut appeler un chat un chat. À un moment donné, non, mais il faut sortir de ces corporatismes. Alors là, je parle de petit hôpital, mais la PHM, bon, tout le monde le dit, je vois pas pourquoi je le dirais pas, ça a été une véritable gabégie pendant des années, pour des raisons qui, croyez-moi, n'ont pas grand-chose à voir avec le sanitaire. Alors après, on s'étonne qu'à un moment donné, il y a un recentrage des choses, un centralisme qu'on reproche beaucoup à Macron actuellement, mais peut-il faire autrement pour essayer de reprendre les choses en main? Bon, bah, écoutez, il ne faut pas s'en étonner.
Revenons peut-être à des considérations très plus terre-à-terre. PHM, c'est quoi?
Assistance publique des hôpitaux de Marseille, pardon. C'est comme la PHP, mais c'est la PHM.
J'aurais juste une petite question avant de laisser la parole à celui qui préside la matinée, docteur Halimi. J'ai vu dans vos préconisations le retour des RASED dans les écoles. Vous pensez que ça peut être la solution, effectivement, pour le repérage
C'est pas la solution, c'est
une des solutions.
Bien évidemment. On a fait une bêtise en supprimant les RASED. Et là, je le dis, c'est pour des raisons économiques, financières, point final. Parce que, vous l'avez dit, madame. Qui est mieux placé, parfois mieux que les parents, pour un certain nombre de raisons liées à un changement de mode d'éducation, mais qui est le mieux placé que l'enseignant pour voir les troubles, mais aussi la tata, vous l'avez dit, au moment du temps cantine, le personnel qui s'occupe des enfants et qui peut, si on lui donne un minimum de formation, s'apercevoir de troubles du comportement qui méritent d'être pris à temps. Oui, je suis pour les RASED.
Trois secondes.
Une minute. Betty Brami, contrôle général des lieux de privation de liberté. Je voulais juste signaler que dans nos visites, nous notions que les élus visitaient très rarement les hôpitaux psychiatriques, alors que normalement, ils devaient le faire.
Merci pour cette précision. Alors, laissons la parole au docteur Halimi.
Oui, simplement dire au sénateur Amiel que le pédopsychiatre que je suis et comme je crois la plupart de mes collègues, se sont reconnus dans la pertinence et la sagesse de votre rapport. Bon, je ne vais pas, si vous voulez, insister sur l'ensemble des points, mais simplement souligner deux sujets majeurs. Je dirais d'abord l'importance du travail avec les familles, puisque la pédopsychiatrie, c'est une psychiatrie familiale qui ne s'adresse pas qu'à l'enfant. Et à cet égard, ça renvoie au tarif de consultation que vous avez évoqué pour les praticiens libéraux qui, au regard des tarifs de consultation, sont pratiquement interdits de faire de la pédopsychiatrie en libéral. Et enfin, bon, je crois que c'est le fil rouge de la matinée, c'est l'importance de la formation. Parce que finalement, l'enjeu majeur, c'est d'acculturer, je dirais déjà les professionnels de santé, les professionnels de l'enfance, mais finalement à la souffrance psychique de l'enfant. Et ce n'est pas quelque chose qui va de soi. D'abord, de la reconnaître, de l'accepter. On peut dire qu'un enfant est mal élevé, mais c'est très difficile, encore une fois, de dire qu'il est déprimé, qu'il est angoissé, qu'au même titre que l'adulte, il y a une légitimité de la pédopsychiatrie de l'enfant. Et à cet égard, je dirais, bon, cet enjeu est d'autant plus grand qu'on sait finalement la rentabilité des interventions précoces, car bon, je crois que beaucoup de pédopsychiatres peuvent dire qu'ils ont des nouvelles souvent plutôt bonnes des enfants qu'ils ont suivis quand ça s'est fait très précocement. En tout cas, merci à vous pour votre travail.
Merci à tous d'avoir participé activement à cette matinée. Cet après-midi, on continue les échanges et les débats avec de nombreux exemples concrets, une table ronde autour du projet territorial de psychiatrie des mineurs et plein de choses intéressantes.